Père céleste, Dieu de gloire, nous courbons devant toi ce matin et nous te disons merci. Nous te donnons gloire, honneur, puissance, sagesse et force. Et du fond de nos cœurs, nous disons saint, saint et encore saint est le Seigneur. Père, je te prie de venir nous faire grâce de cet esprit d'adoration tout au long de cette prédication. Père, je me sens comme quelqu'un qui n'a pas commencé à prêcher, qui a déjà manqué le but, parce que comment parler dignement de toi qui règne sur ton trône, qui est si merveilleux, si glorieux, si magnifique. Nous qui vivons dans ce monde blessé par la chute, dans ce monde déchu, avec nos raisonnements, nos sentiments, si terrestres et loin de ta gloire, de la vision céleste. Ô Père de gloire, viens nous exhorter ce matin, viens parler à nos cœurs et à nos intelligences de ce qui est à toi. Toi qui es saint, séparé de cette création, viens nous parler de ce qui est à toi. Viens nous donner de ce qui est à toi. Viens révéler toute ta majesté, tout le sens de notre vocation à chacun de nos cœurs et à chacune de nos intelligences en ce matin. Fais-nous grâce, Père céleste, et viens bénir ces instants. Sanctifie-les, mets-les à part et bénis-les, Père. Donne vie à ces paroles et donne-leur encore plus vie au terme de cette prédication dans le lieu secret de chacun, car c'est de là que viennent ces paroles et c'est là qu'elles pourront prendre toute leur vie, toute leur dimension et qu'elles pourront changer nos vies, transformer nos vies pour faire de nous des vrais chrétiens, des vrais adorateurs, des vrais fils et des vraies filles du Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta présence qui est en ce lieu, qu'elle nous accompagne en ces instants. Nous t'en prions par celui à qui nous devons tout, par qui seul nous pouvons tout en toi, notre Sauveur, Fils du Dieu vivant Jésus, le plus beau nom et le seul nom qui a été donné sous le ciel pour que nous puissions être sauvés. Amen. Souvent, quand la présence du Seigneur est là, c'est pas facile de prêcher. On se demande si on vient pas plutôt gâcher les choses que... couvrir encore le ciel. Que Dieu vienne bénir ces quelques paroles. Je vais partager aujourd'hui la suite d'une série de prédications sur la vie chrétienne authentique. Et j'avais parlé que on avait besoin de clarté pour ne pas s'endormir du sommeil de la mort. Que le cœur de la vie chrétienne, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Et que pour ça, on avait un besoin absolu de prier. Et qu'il y a bien des choses, mais deux choses en particulier qui nous empêchent de prier, d'être en communion avec Dieu et de désirer prier, c'est notre nature de péché. Et j'ai déjà donc abordé ce point. Il est possible de naître de nouveau et de vivre en enfant de lumière par Jésus, par sa divine puissance. Il est possible de vivre une vie nouvelle et une vie de résurrection, pas par nous-mêmes, mais par la foi dans le Fils de Dieu livré pour nous, par cet évangile qui a une puissance de vie pour celui qui croit. Et alors, il y a un autre obstacle, c'est ce monde, c'est cette terre dans laquelle on vit, alors qu'on est fait, bien aimé, pour le ciel. Et j'avais parlé que je donnerais deux aides pour nous aider à prier. Et c'est de cela dont je veux parler ce matin. Je ferai une toute petite parenthèse. Si on a un besoin absolu de prier pour vivre une vie chrétienne authentique, sachez que dans le cœur de Dieu, Eh bien, il attend que son Église vive une vie chrétienne authentique pour prier pour ce monde. C'est une chose de prier pour vivre une vie chrétienne. Mais Dieu attend qu'on soit ses fils et ses filles qui vivent une vie chrétienne pour ne plus être centrés sur nous, mais être centrés sur lui et centrés sur les âmes. Alors, nous parlons encore de cette prière pour mener une vie chrétienne authentique et j'aimerais introduire en disant, on a été créé pour Dieu. On était fait pour Dieu, pour le ciel. On a été créé comme des êtres spirituels, formés d'un corps, certes, mais pour être comme le trait d'union entre la terre et le ciel. Et par la chute, bien-aimés, on a été séparés de cette vocation. On a été séparés de cette vocation, de cette présence de Dieu, de cette communion avec Dieu. Et le salut de Dieu, le cœur du salut de Dieu, c'est cette réconciliation avec Dieu, avec son royaume, avec son règne, avec son ciel, avec sa présence. La conviction de péché dont on a besoin, la repentance, la foi pour naître de nouveau et pour être sanctifié, eh bien, elle a pour but d'être pleinement réconcilié avec Dieu. Et le cœur de notre vie, le cœur du sens de notre vie, c'est que cette semence que Dieu a mise en nous, elle puisse grandir et un jour éclater en gloire. Nous attendons avec toute la création, dans la douleur de l'enfantement, la révélation des fils de Dieu, la résurrection de la chair, la vie du monde à venir. Et on est fait pour rien d'autre que ça. On va le voir, on est des pèlerins, on est passagers sur cette terre et on est fait pour le ciel. Et si ce monde, cette terre, veut nous voler cette vocation que Dieu a permis que nous vivions par le don de son Fils pour nous racheter, sans quoi nous étions perdus, incapables de rien, retournant à la poussière. Nous étions comme des animaux. Mais Dieu, par Jésus, a insufflé un esprit vivifiant, lui le dernier Adam, ressuscité d'entre les morts. Et Dieu veut nous donner de pouvoir vivre, être une église qui vit authentiquement cette vocation. Quand bien même le diable, le prince de ce monde, le prince, le gouverneur de ce siècle présent, eh bien, il fait tout pour nous garder à lui. Tout ce qu'il veut, le diable, c'est nous empêcher de rentrer dans cette vocation céleste et cette pleine communion avec Dieu, bien-aimé. Il ne veut pas permettre l'illumination de nos cœurs. Il ne veut pas permettre le renouvellement de notre intelligence pour connaître les choses de Dieu, pour savoir les choses de Dieu. Il y a aussi tous les gens qui nous entourent. Tout ce qui nous entoure veut nous boucher la vision céleste et veut faire de nous des gens qui marchent de manière terrestre ou qui ont une forme de religion, de foi, mais en qui l'évangile de Christ, ce glorieux évangile, ne brille pas. Et pourtant, il est appelé à briller dans toute sa splendeur, cet évangile. Vous voyez, je vous lis moi-même cette parole en 1 Jean 4 et verset 4. Il nous est dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Tous ces sentiments, toutes ces puissances, ces autorités, tous les gens qui veulent vous boucher cette vocation céleste, tout ce qui est en vous et à l'extérieur, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si le seul but du diable est de nous boucher cette vocation céleste, le seul but de Dieu est de nous la donner. Simplement, à l'inverse du diable, Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse parfaitement libres. Et c'est à nous, une fois saisis par Christ, de vouloir le saisir pour participer à cette vocation et parvenir, si je le puis, comme disait Paul, à la résurrection d'entre les morts. Alors pourquoi vivons-nous ? Interrogeons-nous ce matin. Pour qui vivons-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Pour ce monde ou pour la vie du monde à venir ? Les Écritures nous disent que ce monde, il est réservé pour le feu. Et que Dieu, ce matin, utilise cette prédication pour, au travers de sa parole, illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse se rendre compte qu'on est fait pour son règne et qu'on lève ainsi la tête vers le Seigneur. Dieu est saint, bien-aimé. Saint en hébreu, kadosh, ça veut dire séparé. Il est le tout autre. Nul n'est semblable à toi. Entre un archange et une pierre, qui ressemble plus à Dieu? Ni l'un ni l'autre. Dieu est saint. Nul n'est semblable à Dieu. Il règne dans sa majesté. On va le voir et on pourrait prendre bien d'autres paroles. Les prophètes, quand ils ont pénétré les sanctuaires de Dieu, quand ils ont eu saisi par l'Esprit des visions de la gloire de Dieu, ils ne pouvaient pas la décrire avec des mots humains, bien-aimés. Ils ne pouvaient pas la décrire avec des termes humains parce que c'était trop glorieux pour l'entendement humain. Dieu règne. Dieu siège sur son trône, mais nous sommes déchus et nous sommes terrestres. Ainsi, on a besoin de comprendre que ce monde, il va toujours nous tirer vers le bas et il va passer. Et il faut que l'on soit renouvelé, que Dieu illumine nos cœurs pour qu'on sache pourquoi on vit et pourquoi on marche. Jésus disait, Jean 7, verset 33, « Je suis encore avec vous un peu de temps. » Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez venir où je serai. Voilà ce qu'il dit au monde d'aujourd'hui. Jésus leur répondit, Jean 8, verset 14. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Jésus, il est venu de quelque part, séparé de ce monde. De ce royaume des cieux que l'on va méditer ce matin. Il est venu de ce royaume et il y est retourné. Mais nous, on n'y est pas. Et on est appelé à recevoir toute la révélation dont on a besoin pour pas marcher comme des fous, bien-aimés, comme des stupides sans intelligence, mais savoir qu'on est fait pour ce règne et qu'on n'est pas de ce monde, comme Jésus n'était pas de ce monde. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même » puisqu'il dit, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Et Jésus, il n'est pas de ce monde. Et on veut méditer ce matin sur le monde de Jésus, sur la gloire de Jésus, et recevoir dans nos cœurs que c'est aussi notre monde, et que ce monde n'est pas notre monde. C'est notre patrie, et que ce monde n'est pas notre patrie. Et qu'on contemple ces choses, qu'on médite ces choses, et qu'elles deviennent un feu indicible dans nos cœurs, et qu'alors rien ni personne puisse nous séparer de cette vocation céleste. Et qu'on puisse remporter le prix. Il y a des athlètes qui, nuit et jour, année après année, vivent de tels sacrifices pour une couronne périssable. Et nous sommes appelés à recevoir la couronne de gloire. Est-ce que tu sais que tu marches sur cette terre chaque aujourd'hui que Dieu fait pour une couronne? Est-ce que l'on sait qu'on marche pour une couronne? Une couronne par surcroît qu'on pourra jeter au trône de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Alors bien aimé, que ce matin, et je finis avec cette introduction, Dieu nous aide par sa parole, en la méditant, qu'elle soit vraiment comme une lampe à nos pas, pour qu'on puisse marcher d'autant plus authentiquement dans cette vocation qui nous est adressée. Car c'est maintenant le temps de réfléchir. C'est maintenant le temps de nous poser des questions. Les jeunes, mais les moins jeunes aussi, quel est le véritable sens de ma vie? Et qu'est-ce que je vais vivre chaque aujourd'hui de Dieu? Alors j'aimerais développer deux points. Un premier rapidement, ces deux aides pour nous aider dans cette vocation et dans la prière. Le premier, méditer sur la vie de Jésus lorsqu'il a quitté sa gloire et qu'il s'est humilié pour un peu de temps pour marcher au milieu de nous avant de traverser les cieux et de rentrer dans sa gloire. Et le deuxième point, et ce sera le corps de cette prédication, méditer sur cette gloire de Dieu. Méditer sur le ciel. Méditer sur la vie d'en haut. Alors rapidement, ce premier point, Jésus sur la terre, humilié pour un peu de temps. L'apôtre Jean nous dit qu'on est appelé à marcher aussi comme il a marché lui-même. L'apôtre Paul dit « Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Bien-aimé, Jésus, il est notre modèle. Jésus sur terre, que l'on lit dans les évangiles, que l'on peut méditer dans les évangiles. Dans ces quatre évangiles, Jésus est notre modèle. Jésus a marché avec la même nature que nous. Alors, ô combien il est puissant pour nous aider si on contemple vraiment sa vie. Parce qu'il a marché avec ce même corps qui le tirait vers le bas, qui faisait qu'il était fatigué, qu'il était même triste, que c'était dur pour lui. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Et il a vécu une vie parfaite. Il pouvait dire à ses détracteurs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et tout le monde partait, et lui pouvait rester là, à dire à cette pécheresse, « Moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus, il a vécu une vie parfaite. Et cette vie parfaite, elle doit pouvoir stimuler notre prière et ainsi impacter dans nos cœurs la juste marche. Comment on est appelé à se comporter? On est appelé à méditer sur le cœur de Jésus. Appelé à méditer sur les paroles de Jésus. Comment Jésus aurait répondu? Comment Jésus aurait pensé? Comment Jésus aurait agi? Dans votre prière, méditez sur les yeux de Jésus. Méditez sur son cœur, sur ses gestes. On est appelé à s'imprégner de cette vie terrestre de Jésus. Et sachez qu'alors, si vous, chaque jour, lisez même dans votre prière personnelle, je crois qu'on est appelé à beaucoup lire les Écritures, mais réservez-vous un temps de méditation des Écritures. Profond et court dans ce que vous lisez, un demi-chapitre de l'Évangile, dans la prière, en prenant vraiment le temps de parfois même méditer une demi-heure sur quelques versets, et laisser la parole de Dieu vous introduire dans une intimité, dans une, pas une réflexion, mais une méditation vraiment spirituelle sur la vie de Jésus. Ainsi, ce caractère de Jésus, tous les traits de Jésus s'imprégneront dans notre vie et nous aideront à ne pas marcher en terrestre, et à pouvoir dire, comme il disait lui-même, « Moi, je ne suis pas de ce monde. Moi, je suis d'en haut. Tous ceux qui m'entourent sont d'en bas, mais moi, je suis d'en haut, comme Jésus était d'en haut. Quitte à ce qu'on soit critiqué, peu importe ce que le monde dira, on est appelé à être les imitateurs de Christ. Et pour cela, comme dit Hébreux 12, versets 1 à 4, « Fixons nos regards sur lui qui mène notre foi à la perfection. » Alors fixons chaque jour, chaque aujourd'hui, nos regards sur Jésus. Contemplons Jésus. Méditons chaque matin sur Jésus. Méditons sur son zèle. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Que Dieu bénisse votre lieu secret, le temps que vous passerez avec lui pour recevoir toute la force de cette contemplation. Le contempler, lui, bien-aimé, c'est s'oublier et fondre notre vie dans la sienne. Ou encore plus justement, c'est laisser sa vie s'imprégner en nous. Laissons la vie de Jésus s'imprégner en nous. Et posons-nous la question, chaque soir, avant de nous coucher, ou en nous couchant, méditant sur notre couche, comme le faisait David. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai ressemblé à Jésus? Et grandissons dans cette ressemblance. Le deuxième point maintenant. Hébreux chapitre 12, après nous avoir dit que Jésus a souffert de la part des pécheurs, il n'a pas méprisé l'ignominie, au lieu de la joie qui lui était réservée, il a souffert toute cette, je paraphrase, cette contradiction des pécheurs, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce qu'a vécu Jésus sur la terre, on est appelé à le vivre pour vivre la même chose qu'il a vécu, à savoir traverser les cieux et rentrer dans le règne de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Jésus, il est bien sur son trône. En ce moment même, Jésus règne. Et parfois, on peut marcher, vivre, sans être conscient de cette réalité qui pourtant devrait être au cœur de nos vies. Et sur ce Jésus, ce royaume des cieux, eh bien, on est aussi appelé à fixer profondément nos regards. Vous savez, il y a des gens qui disent tout à fait à raison, on ne doit pas séparer la mort de la résurrection de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est aussi ressuscité. Mais je crois qu'on devrait dire que de la même manière qu'on ne peut pas séparer la mort de la résurrection de Jésus, on ne peut pas séparer la mort et la résurrection de Jésus de son ascension, du fait qu'il est monté au ciel et qu'il y règne et qu'il est dans sa gloire. C'est vrai que de parler que de la mort, que de la croix, quand bien même c'est quelque chose de fondamental, sans parler de la résurrection, ça n'apporte pas la plénitude de l'évangile. Mais j'aimerais vous dire ce matin que de parler de sa mort et de sa résurrection, sans le fait et la conscience qu'il règne, qu'il est monté aux cieux depuis ce mont des Oliviers, et qu'il règne dans sa gloire, et qu'il est assis à la droite de Dieu, dans la majesté divine, et qu'il règne avec tous ses saints, comme on va le voir. C'est aussi vider l'évangile de toute sa plénitude, de toute sa puissance. Dieu est trois fois saint. Il est mort, ressuscité, et il est rentré dans sa gloire. Et on a besoin de cette conscience, de cette gloire, de méditer cette gloire. L'éternité, bien-aimé, c'est réel. Et la révélation grandissante, jour après jour, par notre adoration, par notre prière, de cette éternité, eh bien, elle sera une aide et une force immense, bien-aimé. Une force immense pour vivre authentiquement notre vie chrétienne. Et pour ne pas nous laisser avoir par nous-mêmes, par ce monde, mais vivre en conscience de ce salut de Dieu et d'un Dieu qui règne et qui nous regarde et qui intercède même pour nous. Et on a un Dieu qui a accompli notre salut par sa mort et sa résurrection, qui est monté aux cieux et qui intercède pour nous. Et on marcherait inconscient de cela. Non, soyons conscients de ces choses et qu'elles nous donnent toute la force pour vivre, pour prier. Cette Jérusalem céleste, bien-aimée, dont on va parler ce matin, c'est quelque chose qui doit nous bouleverser. On doit être bouleversé intérieurement. Et ça doit être la vision. Paul, l'apôtre, il était saisi de cette vision. Lisez toutes ses lettres, vous le verrez. Il était saisi de cette vision céleste. C'est pour ça qu'il pouvait vivre autant de sacrifices. C'est pour ça qu'il pouvait vivre, prier sans cesse, nuit et jour, louer alors qu'il était même emprisonné. Et on pourrait en dire, il fait la liste de tous ses maux, de tout ce qu'il a vécu. Et tous ses maux, tout ce qu'il a vécu, il dit que c'est pas le plus grand de ses soucis. Le plus grand de ses soucis, c'est les églises. C'est que Christ soit formé dans les cœurs. Pourquoi ? Parce qu'il sait, il peut souffrir tout et n'importe quoi. Tout ce qu'il veut, c'est que les âmes de son peuple, comme il dit, je me ferai anathème pour que quelques-uns de mon peuple soient sauvés. Et sa vie montre qu'il c'était pareil, prêt à être lapidé, et il l'a été, faire naufrage, être roué de coups, pour le salut des âmes, parce qu'il savait qu'au-delà de ses souffrances, un poids éternel de gloire lui était réservé, pas qu'à lui, mais aux autres aussi. C'est parce qu'il était saisi de cette vision céleste qu'il pouvait marcher comme, je crois, peu d'hommes de Dieu ont marché. Et on a besoin d'être saisi de cette vision céleste. On a un jeune homme parmi nous qui, suite à la prédication de dimanche dernier sur l'Évangile, j'ai prêché cette gloire de l'Évangile, que ceux qui périssent, c'est que le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile de la gloire de Christ sur la face de Dieu. Et ce petit frère, il a prié le matin et il a cherché la face de Dieu et Dieu lui a dit, réveille-toi toi qui dors, lève-toi d'entre les morts. Et alors il a été saisi, par le Seigneur. Parce qu'il a compris qu'il avait un besoin absolu de prier, sinon il était vendu au péché, il était vendu à la chair. Et Dieu alors l'a saisi dans une vision. et il n'entendait plus rien autour de lui. Alors que d'autres personnes priaient autour, il n'entendait plus rien et tout à coup, il a vu cette lumière inaccessible. Et il l'a vu traverser les cieux. Et il est monté avec cette lumière. Et je ne pourrais pas vous décrire ce qui nous témoignant, il ne pouvait pas nous décrire. C'était indescriptible, c'était tout à fait glorieux. Tout le monde disait « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Il m'a dit « Olivier, tu m'avais dit plusieurs fois qu'on est sauvé pour adorer Dieu et pour lui dire saint et lui donner gloire toute notre vie. » Et je me disais « Bon, dire saint, saint, saint toute l'éternité, ça risque peut-être d'être difficile ou d'être embêtant. » Mais il m'a dit « Là, quand j'ai été saisi et que j'ai vu cette lumière inaccessible à la droite du trône de Dieu, mes jambes tremblaient. » Et quand il me racontait cette vision, ses jambes tremblaient et il disait, en te parlant là, mes jambes tremblent et je veux que m'agenouiller et adorer Dieu. Mais je sais que je suis fait pour l'adorer au siècle des siècles et pour rien d'autre. On a besoin d'être saisi de cette gloire parce que c'est pourquoi on est fait et pour rien d'autre. Et le diable et nos pensées, nos raisonnements, nos sentiments veulent nous boucher. Ce qui est pourtant le seul sens de notre vie, le seul but de notre vie. Alors bien-aimés, reconnaissons non pas pour nous condamner, mais pour nous encourager à marcher, reconnaissons combien on est encore tant à notre propre image, ô combien on est encore tant terrestre, ô combien on est encore trop pris par les soucis de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis de la vie. Je viens de vous dire que Paul, il a eu des soucis bien plus que chacun des nôtres qui sommes ici. Mais reconnaissons comme on est encore trop influencé par ce monde. Et revenons au Seigneur. Regardons au Seigneur. Fixons le Seigneur dans sa gloire pour que cette influence divine vienne agir dans nos cœurs et nous renouveler et nous donner la force de marcher. On a besoin de cette vision céleste de l'éternité. On est terrestre et on croirait que c'est pas possible, bien-aimé, de vivre vraiment de manière nouvelle et authentique. Tellement le monde est puissant, et c'est vrai qu'on vit dans un temps, les Écritures nous enseignent, où le comble du péché est là. Mais l'apôtre Pierre nous dit, 2 Pierre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Sa divine puissance, elle nous a tout donné. Et comment ? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors que Dieu soit loué pour sa parole, pour les textes qu'on va lire maintenant, et qu'il nous fasse grandir dans cette connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et je vous invite à prendre avec moi le chapitre premier de l'Apocalypse. Et nous lisons à partir du verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Verset 12. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, que la parole de Dieu parle à vos cœurs elle-même. Parce que je ne veux pas le dire orgueilleusement, mais ce que je veux prêcher ce matin, il faudrait que je puisse vous prendre dans mon cœur pour que ça puisse être transmis. Il faudrait que je puisse vous prendre avec moi à genoux en train d'adorer Dieu. Et ça doit être l'expérience de chacun. Et on ne peut pas prêcher ces choses finalement. Que la parole de Dieu parle d'elle-même et qu'on désire prier, bien-aimé, qu'on désire s'avancer devant Dieu, qu'on désire l'adorer, qu'on désire le rencontrer, le contempler. Et alors, il y aura bien des choses qu'on ne pourra pas partager, mais qui s'établiront dans nos cœurs, dans nos vies. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un, c'est Jésus. Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il lui ressemblait. Vous voyez, Jésus glorifié, il ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, vous voyez bien qu'il ne peut pas décrire ce qu'il a vu. Quand je vis celui qui était quelqu'un et qui ressemblait comme à un fils d'homme, je tombais à ses pieds comme mort. Vous voyez, l'apôtre Jean, que l'on dit le disciple bien-aimé et a raison, qui a médité sur la vie terrestre de Jésus au point d'être celui lors du repas du Céder qui était contre le cœur de Jésus. Eh bien là, il voit ce fils de l'homme mort, ressuscité et glorifié. Et glorifié. Et il tombe comme mort devant lui. Alors c'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous dire, bien-aimé, on doit méditer sur Jésus dans sa vie. Pour nous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais méditons aussi sur Jésus dans sa gloire. Et cette gloire inaccessible, elle est tellement glorieuse qu'encore dans notre corps de péché, on tombe comme mort devant cette gloire. Voilà pourquoi on aura besoin de ressusciter, de revêtir un corps glorieux comme Jésus, sans quoi on ne pourra pas accéder à cette majesté divine avec notre être charnel qui se flétrit. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » On peut prendre le chapitre 4 maintenant, verset 1. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après qu'il ait écrit toutes ses lettres aux 7 églises, il dit « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Et c'est ce que l'on a besoin, de regarder par cette porte. Non pas par la porte de nos fenêtres, de nos maisons pour voir quel temps il fait, et d'être heureux s'il fait beau ou déprimé s'il ne fait pas beau. On a besoin tous les matins d'ouvrir la porte du ciel. Et sachez qu'elle est ouverte pour celui qui le cherche. Après cela, et voici une porte était... Je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. On doit regarder, bien-aimé, et on verra. On verra. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici !» Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour voir ces choses, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, bien-aimé, il y avait un trône dans le ciel. Et voici, que Dieu vous donne de méditer sur ces paroles, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Là aussi, vous voyez, je devrais peut-être vous lire ces paroles. Je regardais, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et fermez la parole de Dieu, et nous invitez tous à nous agenouiller, à regarder, à prier en esprit et en vérité, et à entrevoir ce règne, ce trône, et celui qui est assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On est fait pour ce règne. À la fin de l'Apocalypse, Jésus lui-même dit à Jean que tout ce qui est écrit sont des paroles certaines et véritables. Recevez ce matin la certitude de ce règne, de ce trône, de ce quelqu'un qui est sur son trône. Quand bien même on vit dans un siècle humaniste, rationaliste, comme je l'ai lu tout à l'heure, 1 Jean 4:4. Eux, ils parlent d'après le monde, nous, on doit les avoir vaincus et recevoir la révélation de ces choses qui sont bien plus réelles que ce monde qui va passer, qui est réservé pour le jugement, pour le feu. On doit être... n'avoir honte de rien. Comme dit Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. On ne doit pas avoir honte de ces choses, c'est une réalité. Et quand bien même on serait moqué, comme Jésus a été moqué, mis dans la fosse aux lions, comme les premiers chrétiens y ont été mis, et comme ce dernier siècle a donné encore plus de martyrs que durant toute l'histoire de l'Église, on ne doit pas avoir honte de ces choses, elles doivent fonder notre foi. Il y a un trône dans le ciel, il y a quelqu'un qui règne, il y a un arc-en-ciel qui est semblable à de l'émeraude, et on est fait pour ce royaume. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Ces 24 vieillards et ces 24 trônes, bien-aimés, je vais passer rapidement là-dessus, ils représentent le peuple de Dieu. Que ce soit mis sur la bande, je ne voulais pas le dire, mais je le dis rapidement. Vous pourrez lire 1 Chronique 24 en particulier. David, il avait institué pour l'adoration du tabernacle 24 classes de sacrificateurs pour le service du temple. Il y avait aussi 24 classes de prophètes pour entourer les champs, 1 Chronique 15. 24 classes de portiers parmi les Lévites, 1 Chronique 26, versets 17-19. Et 24 classes d'officiers en charge du commandement de l'armée et de l'intendance du roi, 1 Chronique 27. Donc Dieu, par là, montre, comme l'a vu notre petit frère, des adorateurs, le peuple de Dieu. Il disait, il y avait des gens, il y avait des anges autour de moi, et tout le monde adorait, tout le monde disait, saint, 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 saint. Ces 24 vieillards, ces 24 trônes, c'est tout ce peuple des rachetés qui a été scellé par le sang de Christ pour l'adorer, bien-aimé. La rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est ceux qui ont reçu cette rédemption que Dieu a acquis pour célébrer sa gloire. Ainsi, on continue et vous verrez ces quatre bêtes. Et ces quatre bêtes, encore une fois, c'est l'image du peuple. Parce que le peuple d'Israël dans le désert, eh bien, du nord au sud, à l'est et à l'ouest, eh bien, il y avait 4 fois 4 tribus qui marchaient dans le désert. Et chaque animal que l'on va voir représente une bannière sous l'égide de laquelle campaient les 4 tribus. La première, c'est celle de Juda, qui est l'emblème du lion. Vous pouvez lire ça dans Genèse 49. À l'ouest, c'était Ephraïm qui représentait un taureau. Et je ne vais pas vous donner les versets parce que ce n'est pas le but d'enseigner ce matin. Et au sud, c'était Ruben qui avait l'image, qui était l'image d'un homme. Et au nord, Dan, qui était l'image d'un aigle. Ainsi, on va voir ces 4 êtres vivants qui représentent encore tout le peuple de Dieu, avec des yeux partout autour d'eux, parce que justement, ils sont dans une plénitude d'adoration. Ils ne regardent pas qu'avec leur cœur, ils regardent avec tout leur corps glorifié. Et voilà pourquoi jamais ils ne se lasseront, comme on le chantait, de dire « Saint, Saint, Saint ». Ils ne cessent de dire jour et nuit à celui qui est assis. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier est un être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Vous savez, le prophète Ésaïe, lui aussi, a été saisi et il a vu la gloire de Dieu. Et comme il nous est dit que ces quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont le peuple de Dieu, tous les anges, toutes les créatures qui adorent Dieu. Eh bien, le prophète Ésaïe a dit, Ésaïe 6, verset 1, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Il a vu le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, dit le prophète, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez, quand vous voyez quelque chose de la gloire de Dieu, vous sentez tout de suite votre impureté. Vous sentez tout de suite votre souillure. Vous sentez tout de suite qu'on n'est pas fait pour cette terre, mais pour ce règne. Et vous dites comme Paul l'a repris au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, verset 24, « Malheureux que je suis, malheur à moi !» C'est ce que disait le prophète, « Malheureux que je suis, ou misérable que je suis, disait Paul, qui me délivrera de ce corps de mort, ce corps impur qui me tire vers le bas ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et vous pourrez garder votre doigt sur ce passage de l'Apocalypse sur lequel on va revenir et peut-être fermer vos yeux et écouter avec votre cœur ces quelques paroles du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens que j'aimerais vous donner. Si on prend conscience de ces choses célestes, on voit qu'on est vendu au péché, qu'on est misérable, qu'on est malheureux. Mais voyez que grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle. Et on va la voir, sa gloire. Et déjà, on peut en pressentir les arts. Et par la foi, elle est notre patrie. Et non pas ce monde déchu. En lui, Dieu nous a élus, bien-aimés, avant la fondation du monde. Il nous a élus, pourquoi ? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, devant sa gloire, bien-aimés. Grâce à Jésus, il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi ? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, et qu'il puisse le faire ce matin, répandre sa grâce sur nous, abondamment par toute espèce de sagesse et d'intelligence, grâce à sa parole et la force de la prédication, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, bien-aimés, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et écoutez bien, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je répète, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il faut que l'on sache, bien-aimé, il faut que l'on sache que sa grâce abonde dans nos cœurs par la prière et que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel qui nous est adressé par l'évangile de Jésus-Christ. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui nous est réservé. Alors si on sait ces choses, si elles illuminent nos cœurs, je vous assure, bien-aimé, qu'il n'y a vraiment rien ni personne, jeune ou moins jeune, qui pourra nous séparer de cet amour. On donnera tout à la suite de ces témoins de la foi d'Hébreux 11. Parce qu'on aura compris comme eux. Je vous lis Hébreux 12, verset 22. Qu'on s'est approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Apocalypse 5, verset 1. On peut le prendre à partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Sans que tu aies été saisi, sans que tu aies eu une vision, est-ce que chaque matin tu vois par la foi? La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Est-ce que tu vois par la foi ce trône, quelqu'un qui est assis dessus, ce Père de gloire? Et est-ce que tu vois au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui est là comme immolé? Est-ce que tu vois cet agneau qui est là comme immolé, qui a versé son sang pour toi, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est monté à la droite du trône de Dieu? Un agneau qui est aussi lui-même adoré. Est-ce que tu vis avec ces choses dans ton cœur, dans ton intelligence? Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Il se passe des choses au ciel et on est tellement parfois incrédule ou terre à terre qu'on ne se rend pas compte et on a besoin, je l'aurais rabâché, de prendre conscience de ce ciel. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardais Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. C'est ce que t'as vu, petit frère. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les louanges. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est maintenant, bien-aimés, qu'il faut prendre conscience de ces choses. Il ne faudra pas être étonné, comme toutes ces personnes qui ont fait une expérience de mort imminente ont été étonnées. J'ai entendu un témoignage dernièrement par quelqu'un de tout à fait sérieux qui habite à Bordeaux, qui a été piqué par des frelons sur tout le corps et qui a fait cette expérience de mort imminente. La plupart des gens diront qu'ils ont vu comme un tunnel, comme un couloir et une lumière extraordinaire. Alors qu'ils sont que dans ce tunnel, ils vous diront tous « Je n'avais pas envie de revenir ». Et pourtant ils étaient que dans le tunnel et s'approchaient de cette lumière inaccessible qui est Jésus, l'agneau de Dieu, de ce trône de gloire. Ce frère de Bordeaux disait, alors qu'il a une femme, des enfants, quand il s'est approché, il ne voulait plus redescendre, il voulait rester là. Je répète, il avait une femme, des enfants et encore bien des choses, parce que tout s'évanouit devant la gloire de Dieu. Tout s'évanouit, tout perd de sa valeur. Non pas qu'une femme et des enfants ne sont pas une valeur. Encore dans l'adoration, je priais que mon fils puisse un jour voir cette gloire, être saisi de cette gloire. Mais tout s'évanouit. Cette terre, toutes ces convoitises qu'on pourrait avoir, même tous ces projets humains, tout s'évanouit devant la gloire de Dieu. Et ce ne sera pas quand on sera devant lui qu'il faudra réfléchir et qu'on dira « Mais c'est trop tard, si j'avais entendu cette prédication et que je l'avais mise en pratique dans le lieu secret pour adorer Dieu, je n'aurais pas vécu comme un insensé, mais avec sagesse, chaque jour qui a construit ma vie, je l'aurais commencé par adorer en me rendant compte que je vis pour une couronne. » Je vis non seulement pour être sauvé, mais pour pouvoir rendre gloire à Dieu et lui offrir quelque chose. Je vais y venir dans un instant. Ces récompenses, pas par nos propres efforts, mais par Christ seul, c'est quelque chose de glorieux. Est-ce que tu aimerais, toi, arriver devant ce trône et devant cet agneau et voir des gens qui ont reçu cette couronne parce qu'ils ont marché en conséquence par Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire et pas à nos mérites, mais ces œuvres des saints qui seront une couronne et qui pourront la jeter. Et toi, tu serais les mains vides et tenez tout à coup d'accéder à cette lumière. C'est maintenant qu'on doit venir à lui, être décidé dans nos cœurs de vivre cette vie chrétienne authentique, cette vocation glorieuse qui nous a été adressée. Et je vous assure que quand vous êtes devant cette gloire, elle peut se voir par la foi. Ne dites pas que vous avez besoin de vision. La parole de Dieu est la révélation tout entière, une fois donnée, une fois pour toutes. Et par elle, vous pouvez comprendre ces choses, vous pouvez les saisir. Et vous pouvez les vivre maintenant, aujourd'hui, si on entend sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, et que chaque jour soit un retour à Dieu, un retour à l'adoration. Et c'est un fait que tout s'évanouit, cette conscience de l'éternité doit s'imprégner comme jamais en nous. Alors on pourra marcher libre, alors on pourra être détaché, mais totalement de ce monde. On pourra vraiment marcher comme des pèlerins, et quoi qu'il nous arrive, eh bien, cette joie, elle sera vraiment un rempart. Ce ciel, il sera dans nos cœurs. Mais ça, c'est l'œuvre de l'adoration, au travers des Écritures, de la prière. On peut chanter, comme dans certaines églises, « Oh, le ciel est dans mon cœur. » C'est bien joli, bien-aimé. Mais c'est, selon moi, parfois mépriser l'Évangile de Dieu. Ne pas avoir cette crainte qui est une source de sagesse. et qui est bonne pour nous, et qui est une source de vie, d'une vie abondante. Hébreux 11, verset 9, nous dit ceci. « C'est par la foi, Abraham, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, et non pas ce monde dont l'homme est l'architecte et le constructeur, et qui va finir par le détruire. Si Dieu ne vient pas pour détruire ce monde, de toute façon l'homme finirait par s'auto-détruire, vous voyez. On attend cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de joie, un Dieu de vérité, un Dieu qui est sûr à toute larme. » Bien-aimés, écoutez, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils ont marché dans la foi, et ils sont morts dans la foi, sans avoir encore obtenu ces choses promises. Et on marche avec cette promesse qui doit être une ancre dans nos vies. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce qu'il est clair, j'ai introduit en disant, pour qui tu vis? Pourquoi tu vis? Est-ce qu'il est clair pour chacun de nous, comme c'était clair pour nos pères, que l'on reconnaît qu'on est étranger et voyageur sur la terre? Il faut que ce soit imparti dans nos cœurs. Ce monde passe avec sa convoitise. Celui qui a l'amour du monde, comme le dit Jean, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce que c'est l'orgueil de la vie? Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, dit Jésus? Et chacun de nos cheveux est compté. On est cher au cœur de Dieu. Comme le dit Jésus encore dans Matthieu, bien-aimé, il dit, ne vous amassez pas, Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On retient cette parole. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fais du ciel ton trésor, ainsi ton cœur y sera. Les jeunes en particulier, ça grouille de tentations autour de vous. Mais si le trésor de ta vie, c'est ce ciel, et qu'avant d'aller à l'école, eh bien tu médites sur ce ciel, eh bien là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il ne sera pas à ce monde, il ne sera à rien d'autre. Verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Est-ce qu'on montre qu'on cherche une patrie? S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si tu as en vue ce monde, tu as le temps d'y retourner. Et tu vas y retourner. Et tu vas le laisser te manger. C'est pour ça que tu dois avoir en vue cette cité sainte et rien d'autre. Et qu'elle doit brûler dans ton cœur. Je répète, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Cette cité que Dieu prépare, c'est ta patrie, bien-aimé. C'est ton passeport, c'est ton identité, c'est ta vie, c'est ta position, c'est ton domicile. On était tous faits pour le ciel, bien-aimé. Mais on a chuté en Adam. On a été condamnés à nous mouvoir dans cette nature charnelle, terrestre, esclave du péché, de cette séparation d'avec l'arbre de vie. Aujourd'hui, il y a des saisons. Il n'y en avait pas et il n'y en aura plus. Mais on aura des arbres qui porteront leurs fruits en toutes leurs saisons. On est fait pour la résurrection, bien-aimé. Alors plus on contemple, plus on voit que par la grâce de Jésus, on est racheté. Et j'aimerais vous dire ça ce matin. Plus tu contemples, plus tu médites sur ce si grand salut de Dieu, plus tu vas percevoir que tu es racheté et qu'intérieurement, t'appartiens vraiment plus à ce monde. Pas parce que tu te le dis dans ta tête, mais parce que Dieu illumine les yeux de ton cœur et il te donne cet esprit de sagesse et de révélation. Et tu commences à sentir que tu es racheté. Tu commences à sentir que tu es libre. Et que tu n'appartiens plus à ce monde, et que tu es bien assis dans les lieux célestes en Christ, que c'est là ta position. C'est la Jérusalem céleste, notre maison, et ce n'est rien d'autre. On n'est pas fait pour cette terre, mais pour le ciel. On est fait pour cette vie abondante. Il nous est dit qu'il vivait sous des tentes. L'apôtre Jean prend cette image pour Jésus, qu'il a dressé sa tente parmi nous. Jésus s'est humilié pour un peu de temps. Pierre le dit aussi, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Je ne vais pas enseigner sur ce sujet, mais ça nous parle de la fête de Soukhot, la fête des tabernacles, la fête des tentes, qui veut dire une chose, on lit le livre de l'Ecclésiaste pendant ce temps-là, vanité des vanités, tout est vanité. Ça veut dire, on est passager sur cette terre. Comme les Israélites, on habite dans le désert pour un temps, mais on est fait pour la terre promise. On est fait pour le permanent. Et on est dans cette tente. Et ces tentes, elles sont faites, et s'il pleut, eh bien, on est vulnérable dans ces tentes. C'est vrai qu'on est vulnérable, bien-aimé. On est vulnérable, c'est pourquoi on va le voir, soupirer, gémir, pour que nous puissions revêtir cette habitation céleste. Mais ce qui te donnera, vulnérable que tu es, que ta soukha, elle tombe pas par terre, que ta tente, elle tombe pas par terre, c'est cette espérance qu'avec Caleb et Josué, malgré tous les grands hommes forts, malgré tout ce que tu pourras voir, malgré ta faiblesse, ta vulnérabilité, tu fixeras tes yeux sur le Fils du Dieu vivant, qui t'a tout donné. Et si tu le connais, tu verras que par sa divine puissance, tu sauras qu'il a la force de te racheter. Et alors, bien-aimé, tu comprendras que tu es voyageur, oui, que tout est vanité, et que tu es fait pour le permanent. Tu es fait comme pour ce temple qui était l'image du permanent, de la réconciliation de Dieu avec les hommes, où il siégeait au milieu de son peuple. Tu es fait pour rien d'autre que ce règne. Et c'est cette vision-là que l'Église a besoin de retrouver. Elle a besoin de retrouver la gloire de Dieu et la conscience que ce Dieu y revient bientôt et que cette terre, elle va passer et qu'il va prendre, rassembler avec lui ses élus qui vont monter à sa rencontre. Les morts en Christ ressusciteront, nous serons changés à sa rencontre pour régner avec lui. On a besoin de cette vision de l'éternité, bien-aimé. Sinon, on vit pour nous. On vit pour nous, même le Saint-Esprit, comme je le disais l'autre jour, on le prend pour nous. On est comme une église qui est centrée sur sa propre croissance ou la croissance de ses membres. Mais il faut qu'on soit une église centrée sur le royaume de Dieu, sur les desseins de Dieu, sur le règne de Dieu. C'est là qu'on trouvera toute la puissance et que Dieu honorera nos assemblées. Et qu'il pourra agir lui-même réellement. C'est là que l'Église deviendra glorieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle laissera cette œuvre de mort se faire en elle pour que la vie soit manifestée en les autres, comme le dit l'apôtre Paul. Parce qu'elle vivra une vie de sacrifice, non pas de mortification, mais de vrai sacrifice, parce qu'elle saura et se sera plantée au-dedans d'elle, qu'elle est faite pour le ciel, que ce Messie revient bientôt, et ce sera là une puissance de vie qui fera qu'on sera prêt à tout perdre, prêt à tout donner, prêt à ne plus rien avoir dans ce monde ou dans notre être intérieur qui s'oppose à l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. C'est là qu'on aura la force de la vie, bien-aimé. On a besoin que soit restauré dans l'Église ce règne de Dieu qui est dans le ciel, mais qui vient. Parce qu'on l'a lu tout à l'heure, on règnera avec lui. C'est ces 1000 ans dont nous parle l'Apocalypse, c'est pas un enseignement ici présent, mais sachez-le, c'est un fondement à notre foi. Jésus revient. Il est mort, ressuscité, il est monté dans les cieux et il a permis que son évangile soit répandu parmi le monde entier, qu'Israël soit dispersé parmi le monde entier. Et aujourd'hui, Israël est rassemblé sur sa terre. Le temps des nations touche à sa fin. Le Seigneur Jésus revient. Et on va voir comme Jean ce roi de gloire. On va tomber comme mort et il posera sa main sur nous et il nous dira ne crains pas, il ressuscitera nos corps et nous régnerons avec lui sur cette terre avant, comme on va finir par le lire, que cette Jérusalem céleste descende d'auprès de Dieu et que cette terre et que ce monde passe. Oh, qu'est-ce qu'on est parfois attaché à ce monde! Mais il n'y a pas besoin de faire de la cosmologie pour savoir qu'on n'est même pas un grain de sable dans l'univers, bien-aimé. Un univers que Dieu tient parfaitement dans sa main, lui qui régit toutes choses. Quand il va revenir, tout va trembler. Les puissances des cieux seront ébranlées, comme le dit Jésus. N'ayez pas honte non plus de ces choses. Jésus nous l'a dit clairement. Ce jour de son retour, ça va être terrible pour les uns, et glorieux pour les autres. C'est notre délivrance qui approche, bien-aimés. Alors, levons nos têtes. Levons nos têtes. Et si ces choses sont claires en nous, alors je crois qu'il y aura une puissance renouvelée dans chacune de nos vies, bien-aimés. Vous pouvez prendre avec moi 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Un jour, j'ai dit à mon épouse, est-ce que tu réalises qu'un jour tu vas ressusciter d'entre les morts, que tu vas revêtir un corps glorieux ? On laisse ce monde et nos vains raisonnements, et pourtant la parole nous dit que par sa sagesse, l'homme n'a pas pu reconnaître Dieu, et il a plu à Dieu de frapper notre sagesse de folie pour que l'on puisse connaître ces valeurs inestimables, cet héritage du Seigneur. C'est des choses concrètes. Moi, je crois plus à ces choses qu'à ces chaises qui sont devant moi. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, et c'est un encouragement maintenant que je veux vous donner avec ces choses, quoi que l'on vive, si ces choses sont dans nos cœurs, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, écoutez, au-delà de toute mesure, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas dire. Il n'y a que quand on est saisi qu'on réalise. C'est vrai que si on essaie de se dire, oui, de dire saint, 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 non. Mais on est complètement à côté. C'est au-delà de toute mesure. Ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel, éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente, vous voyez, il reprend, où nous habitons sur la terre, c'est ce corps. Nous savons que si cette tente, ce corps où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. On a besoin d'être vêtu de Jésus, vêtu de son esprit, et pas se retrouver nu, bien-aimé. Pas se retrouver nu. Vous savez, lorsqu'on se présentera devant Jésus, on n'aura rien d'autre que lui. Gardez ça dans vos cœurs. On n'aura rien d'autre que lui. Tout ce que tu peux accomplir par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas mes prédications que j'apporterai devant le Seigneur. Ce n'est pas tous les entretiens que je peux avoir avec les uns et les autres. C'est comment est Jésus dans mon cœur. Comment est Jésus dans mon cœur. Je serai devant le Père et devant Jésus. Et le Père surtout dira, qu'est-ce qu'il y a de toi dans cet homme? Qu'est-ce qu'il y a de toi dans cette femme? Et c'est à la mesure de Christ que l'on aura, on va le voir dans un instant, ces récompenses, cette proximité avec Dieu. On aura un Jésus qui voudra même, qui intercédera auprès du Père. Comme il le dit, si vous rougissez de moi dans ce monde, je rougirai de vous quand vous vous présenterez devant mon Père. Mais si on n'aura pas rougi, il sera là pour nous défendre. Mais regarde, il y avait ça quand même. Il y avait ça aussi. Tout ce qui nous restera, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on est appelé à être vêtu de lui et de lui seul. Et c'est pourquoi on doit prier, adorer, pour être transformé à son image. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Et on a le droit de gémir, pas de dépit, mais en vérité, vous comprenez? Pas de dépit, mais en vérité, on soupire après cette révélation des fils de Dieu. Parce qu'on est fait pour ce règne, on n'est pas fait pour cette terre. Car tandis que nous sommes dans ces temps, nous gémissons accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Comme le dit l'apôtre aux Corinthiens, vous pourrez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Mais avec quoi on bâtit? Avec quoi on bâtit? Si on bâtit avec de la paille, avec du chaume, on sera comme sauvé au travers du feu. Mais si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et cette œuvre, on est appelé à la bâtir, bien-aimé, avec de l'argent, avec de l'or, avec ces pierres précieuses que l'on retrouve dans l'Apocalypse, dans la Jérusalem céleste. Et c'est pas à prendre à la légère. C'est pas quand tu te retrouveras devant Jésus que tu te diras « Oui, bon, je me suis simplement dit, je suis sauvé par la foi. Alléluia. » Quand tu verras des Paul, des David Brenner, des hommes de Dieu qui ont déchiré, des femmes de Dieu qui ont déchiré leur cœur, penses-tu que ce serait normal que tu sois aussi proche d'eux que eux? Dieu est parfaitement juste, il nous sauve par la seule grâce. Mais nos œuvres recevront un jugement, ce que l'on appelle le tribunal de Christ. Et c'est maintenant qu'on doit réfléchir à ces choses. Oui, tu es sauvé par la foi seule. Mais moi, j'aimerais pas arriver devant Dieu en me disant « Je suis passé à côté ». Ne passons pas à côté de ce temps qui détermine notre éternité, de ces chaque aujourd'hui qui détermine notre éternité. Pour cela, on a un besoin, comme je l'ai prêché dans les dernières prédications, un besoin absolu de prier. Voilà, bien-aimé, Dieu règne sur son trône et il vient bientôt. Nous sommes en route pour cette cité, alors vivons pour ce règne qui vient de manière authentique. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie, il est notre seule vie, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et j'écrivais, bien-aimé, que le monde aille jusqu'à vous, haïr, ne vous comprenne pas, de grâce. De grâce, ne nous laissons pas corrompre. Ne nous laissons pas corrompre et recevons cette réalité non dans la tête, mais par révélation dans le cœur. Ne paraissons pas être de ceux qui arrivent trop tard. Vous voyez, il y a quelque temps, on a aidé une personne qui était en fin de vie. Et sa famille n'a pas osé nous demander de veiller avec elle, de faire des nuits. Elle nous l'a demandé au dernier moment et à peine l'avions-nous mis en place qu'elle est décédée. Et en parlant avec eux, ils disaient « Heureusement qu'on ne vous a pas dit trop vite, on a ainsi pu profiter de notre maman au maximum, même si c'était éprouvant. » Vous comprenez le sentiment qu'ils avaient dans leur cœur? Même si on a dû veiller alors qu'on travaillait, c'était éprouvant. Mais ça a été digne d'être vécu. Qu'ainsi soit notre vie, bien-aimé. Qu'on ne se dise pas arrivant près de lui, on est passé à côté. Que personne d'entre nous passe à côté. On est fait pour cette gloire et on peut la vivre dès ici-bas, une vie chrétienne authentique. Et je terminerai, bien-aimé, par vous lire, vous pouvez prendre avec moi, ou je le ferai en guise de prière, vous lire quelques versets de l'Apocalypse. Et avant de nous confier à la prière avec ces versets, j'aimerais juste conclure cette petite série de prédications sur la vie chrétienne authentique en vous disant que on est les seuls responsables de la déchéance de ce monde, de l'apostasie dans l'Église. C'est avant tout nous vers qui on doit regarder, pas envers ce qui ne va pas, mais nous-mêmes. Je sais que dans ces prédications précédentes, j'ai pu dire certaines choses par rapport à l'Église, parce qu'il faut... L'homme spirituel juge de tout. On doit oser discerner et dire les choses. Mais j'aimerais vous dire que je veux me garder de voir la paille dans l'œil de mon prochain et de ne pas voir ma poutre. J'aimerais nous inviter à l'humilité, qu'on ne soit pas des donneurs de leçons, mais qu'on soit vraiment des gens humbles qui cherche vraiment la face du Seigneur. C'est là qu'il nous révélera ses secrets et c'est le seul à pouvoir agir dans nos cœurs. J'aimerais citer avant de prier cette phrase terrible de Nietzsche, ce philosophe qui disait et qui pourrait redire aujourd'hui, parce que cette vie chrétienne, elle est peu authentique aujourd'hui, c'est la vérité. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, au fond, il n'y a eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix. Voyez ce que disait Nietzsche. Au fond, il n'y a eu qu'un seul chrétien, c'est-à-dire Jésus, et il est mort sur la croix. Et il disait, et encore, je croirai au rédempteur quand je verrai les chrétiens un peu plus rédemptés. C'est ce que le monde nous crie, ce que ce monde incrédule, athée, comme l'était Nietzsche, c'est ce qu'il nous crie. Et on est appelé à revenir à Dieu, frères et sœurs. Plus que jamais pour être des signes et des témoignages, par nos vies encore plus qu'avec notre parole. Cette vie chrétienne authentique, elle est possible à vivre, bien-aimés. Que ce monde puisse parvenir à voir en nous le Christ Dieu. Et je vous invite à courber vos têtes devant le Seigneur et en guise de prière, j'aimerais lire ces merveilleuses paroles de l'Apocalypse qui sont tout le but de notre vie chrétienne authentique. Les choses tout à fait dernières, après ce règne de Dieu sur la terre, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. »